Fréquence Mistral.
Salut à toutes et tous, auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral. Dans nos studios, ici même, à Fréquence Mistral Marseille, on a la chance de voir passer toute la culture et tous ceux qui font vivre la culture à Marseille et dans notre région. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir un festival magnifique, puisqu'ils mettent à l'honneur quelque chose qui me tient à cœur, la BD, en la personne des Rencontres du 9e Art, donc le festival de bande dessinée et art associé. Culte pour moi, puisqu'il se déroule à Aix-en-Provence chaque année. Cette année, c'est du 11 avril au 23 mai. Et on reçoit Maxime Arnaud, le responsable de communication, mais aussi couteau suisse de ce festival. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Ça va bien ?
Oui, ça va très bien.
Pas trop stressé ?
Non, ça va.
Ah bah, ça va. C'est la première chose à voir avec toi. Maxime, moi, je présente toujours rapidement pour arriver à toi, l'invité. Est-ce que toi, tu peux nous parler de ce festival du 9e art et venir voilà, nous détailler un peu ce qu'est le festival du 9e art ?
Alors, le festival de BD et art associé, on y tient, des Rencontres du 9e art existe depuis plus de 20 ans maintenant, il a apparu en 2004 et c'est un festival un peu atypique. C'est vrai que souvent les gens ont l'image du festival BD qui est en fait un salon dédicace, c'est-à-dire qui se déroule sur un ou deux jours pendant lesquels on va retrouver des auteurs derrière des tables en dédicace. Nous on a toujours essayé de chercher un modèle un peu alternatif. Donc c'est pour ça que ça dure 2 mois, comme tu l'as dit, voilà, du 11 avril au 23 mai. Et l'idée, c'est d'aller de proposer à la fois des cartes blanches aux auteurs et aussi beaucoup d'ateliers pour les enfants. Voilà, l'idée, c'est aussi que les plus jeunes puissent mettre les mains dans le moteur. Donc c'est un festival qui est entièrement gratuit, ça on y tient, depuis l'origine il est gratuit, et on se bat d'ailleurs pour ça, parce que c'est vrai qu'on sait qu'on est dans une époque qui est un peu plus difficile pour les gens, donc l'idée c'est aussi pouvoir de permettre aux gens d'avoir des sorties culturelles sans investir forcément de l'argent, donc on tient à ça, et puis bah, voilà, ça dure vraiment dans le temps. Et puis on va retrouver voilà, aussi des rencontres avec les auteurs, évidemment, hein. Il y en aura quelques petites dédicaces, mais ce n'est pas le gros du festival.
Oui, parce que tu le dis, ce n'est pas un festival comme on pourrait l'imaginer, comme Angoulême par exemple, bon, qui est un peu dans la tourmente, mais ouais. Où c'est pendant 2 jours des rencontres avec tous les auteurs, et puis on fait la queue pour se faire signer sa BD, rencontrer, voir les nouvelles sorties. Là, c'est vraiment, déjà ça s'étire, comme tu le dis, c'est sur plusieurs jours, sur une longue période,
ouais.
Et c'est aussi voilà, une rencontre avec un monde, puisque les ateliers, ça permet de venir bah, de découvrir par exemple la BD, j'imagine le dessin aussi.
Oui, en fait c'est marrant que tu parles d'Angoulême parce que c'est pas des modèles on va dire antinomiques. L'idée c'est Angoulême c'est un peu la vitrine, ça l'a toujours été. Il y a toujours un droit d'entrée à Angoulême, donc c'est vrai que c'est quelque chose que nous on n'a pas et on se bat pour que ça soit gratuit parce que de mémoire c'est plus de 15 euros, donc faut imaginer quand on y va en famille à Angoulême ouais. C'était un budget. Bon là la formule est en train de changer, c'est très bien, voilà, il y a des nouveautés qui vont sans doute apparaître, un nouveau modèle. Donc c'est super. Après, il y a tout un tas d'événements au niveau du territoire. Chacun a un peu son identité. Nous, on est très amis avec Formula Bula qui est à Paris. Il y a BD Colomiers qui est près de Toulouse, BD Bastia, qui ont aussi chacun leur modèle. Donc l'idée, c'est aussi de se différencier, de proposer quelque chose d'un peu différent. Donc nous, on a vraiment un parcours d'exposition à travers la ville, ce qui permet en fait aux gens à la fois de découvrir des lieux un peu atypiques d'Aix-en-Provence, puis aussi de découvrir la ville, parce que voilà, ça permet aussi d'une balade à travers les rues d'Aix-en-Provence. Et puis voilà, on va mettre aussi l'accent sur les ateliers, c'est-à-dire qu'il y a une mise en pratique de tout ça.
C'est qu'on ne vient pas seulement contempler, on vient aussi agir et être dans l'action, du coup.
Bah oui, quand on fait beaucoup d'ateliers pour les enfants, par exemple, l'idée, c'est aussi de se dire que ce sont aussi les visiteurs de demain. Mmh. Notre plus grande fierté, c'est qu'on a certains auteurs qui sont venus étant enfants sur le festival.
Ah, génial.
Qui ont pu échanger avec des auteurs, je pense notamment à Julien Niel, qui a été une oreille attentive pour plein d'auteurs qui étaient en devenir, et se sont devenus ensuite des auteurs reconnus. Donc, nous, s'il y a ce truc-là de transmission, on se dit que voilà, on a tout gagné.
Et à quand une académie du coup du Festival du 9e art à Aix-en-Provence pour former les futures générations d'auteurs et d'autrices ?
Ça serait absolument génial, il faut qu'on y travaille, mais c'est une très bonne idée. Ouais.
C'est vrai que moi, je voulais parler un petit peu de la BD avec toi, Maxime Arnaud, parce que bah, forcément, tu es au fait de ce qui se passe dans la BD. Mais c'est pour rappeler aux nos auditeurs et aux nos auditrices que la BD, elle n'est pas cantonnée qu'aux enfants. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être un lecteur averti grâce à la médiathèque de l'Alcazar que je salue et que je remercie à chaque fois. Mais on a une profusion de sorties de BD en tout genre, de romans graphiques, comme disent certains, qui sont exceptionnels ces dernières années ou ces mois où il y a une accélération.
Non, tu as tout à fait raison. Voilà, la bande dessinée pour les enfants, en fait, elle existe toujours. Hein. On a tous grandi avec Lucky Luke, Obélix, Tintin, évidemment. Et ça reste des valeurs refuges et ça fait partie du patrimoine,
ouais,
tout simplement.
Des doudous affectifs pour tout
voilà,
le monde.
Voilà, clairement. Et ce qui est rigolo, c'est que ça se transmet encore aux plus jeunes. Donc, malgré le fait qu'il y ait aussi le manga et tout ça. C'est-à-dire que tout ça n'est pas du tout, comment dire, en opposition. Au contraire, ça se nourrit et ça s'enrichit. Et après, ouais, il y a toute une bande dessinée pour adultes aujourd'hui qui va à la fois dans le documentaire, la fiction, le manga. Il y a aussi des auteurs français qui font du manga. Enfin, il y a une richesse qui est colossale. Et c'est à la fois des auteurs... on parle beaucoup d'auteurs, mais il y a énormément d'autrices. C'est-à-dire que c'est un milieu qui se féminise énormément, et c'est très bien parce que l'approche des autrices féminines est vraiment différente. Et sur des questions d'actualité, elles se positionnent, elles y vont franchement, et c'est hyper riche, quoi.
Ouais, et surtout qu'effectivement, ça a été un milieu qui était très, très masculin pendant très longtemps. Donc, le regard féminin, il dépoussière aussi certaines visions ou certains regards sur certaines choses.
Clairement.
Ouais, et justement, vous, dans le Festival du 9e art, j'imagine que vous avez une programmation, que vous allez rencontrer des auteurs, autrices que vous faites venir. Comment vous faites ? Vous essayez de mettre un fil rouge chaque année ? Comment on choisit ?
Alors, on n'a jamais de... Souvent, c'est vrai, on nous demande est-ce que vous avez un thème aux rencontres du 9e art ? On n'a jamais... on ne définit jamais un thème d'une année sur l'autre. L'idée, c'est plutôt de se dire, voilà, comment on peut essayer de montrer aux gens la diversité de la bande dessinée, qu'elle soit, on va dire, d'ici ou d'ailleurs, et d'hier et d'aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, cette année, on fait une exposition autour de Hugo Pratt, qui est le papa de Corto Maltese. Ouais. C'est un personnage...
Célèbre personnage. Ouais.
Clairement, c'est un personnage emblématique de la BD, qui a été repris notamment par un duo d'auteurs espagnols, qui est Ruben Pelerero et Juan Diaz Canales, qui a fait Black Sad. Et en fait, Corto Maltese, voilà, c'est un personnage que tout le monde connaît, mais finalement, on le connaît, c'est un peu une image d'Épinal, sans forcément être allé lire tous les albums. Mm-hmm. Donc l'idée, c'était de un peu dépoussiérer le mythe, et on l'a fait avec Patricia Zanotti, qui est la coloriste d'Hugo Pratt, et qui est en plus son ayant droit direct. Donc c'est vraiment une exposition qu'on a pensée comme une sorte de mise en parallèle à la fois du parcours d'Hugo Pratt, qui a énormément voyagé, en parallèle des voyages de Corto Maltese. Donc l'idée, c'est de vraiment faire une sorte de ping-pong, un petit peu comme ça, je dirais, entre la réalité et la fiction, ce qui est un peu le propre des histoires de Corto Maltese. Alors Corto Maltese, pour ceux qui voient le personnage sans savoir, c'est une sorte d'aventurier marin qui vogue au gré du vent, qui suit avant tout sa liberté, qui est épris de liberté, et puis qui a toujours un regard distancié, que ce soit par rapport aux événements qu'il traverse et tout ça.
Ouais, plein de valeurs aussi.
Oui, alors et la valeur cardinale étant la liberté. Bien clairement, il est libre de tout engagement. Et ce qui est rigolo aussi, c'est Corto Maltese, donc c'est une figure que les gens connaissent, mais en même temps, elle peut paraître un peu plus effacée aujourd'hui, alors qu'en fait, elle est encore vraiment d'actualité, parce que les valeurs qu'il défend, elles sont complètement actuelles.
Oui, bien sûr.
Donc on essaie vraiment d'aller sur des choses qui peuvent surprendre les gens.
Parce que c'est un humaniste aussi, Corto Maltese.
Clairement, c'est un humaniste.
Et un homme ouvert au monde, puisqu'il a voyagé toute sa vie et qu'il découvre, et il nous a permis de découvrir certaines zones. Moi, je me rappelle, c'est lui qui m'a donné le goût pour l'Éthiopie quand j'étais gamin en découvrant Corto Maltese.
Tout à fait, Ça a fait ça pour beaucoup de gens, en fait, que ce soit avec la Sibérie, ça nous a permis de découvrir plein de régions du monde et on voyageait avec lui. Et en plus, ce qui était hyper troublant, et c'est ça que je voulais ajouter tout à l'heure, j'ai perdu cette petite idée, mais je voulais aussi dire que c'est quelqu'un qui voyage à la fois qui croise des personnages réels et des personnages de fiction. Du coup, on est toujours un peu mêlé dans cet entre-deux, à savoir est-ce que Corto Maltese a réellement existé ou pas, puisqu'il croise des personnages qui existent.
C'est ça. Ouais.
Donc voilà. Et donc l'expo, on l'a un peu pensé comme ça, c'est-à-dire en mêlant à la fois la vie de Hugo Pratt et la vie de Corto, pour que les gens se disent, c'est un peu comme dans la BD, je sais pas sur quel pied je danse.
Si jamais tu croises Hugo Pratt, tu lui diras qu'avec un de mes meilleurs amis, on lisait Corto Maltese quand on était enfant, et on avait vu ce passage où il va voir une liseuse de bonne aventure qui lui dit que non, sa ligne de chance n'est pas bonne, et qu'il décide de prendre un couteau pour se tracer lui-même sa ligne de chance dans la main. Et je me rappelle qu'on avait fait ça avec une fourchette chaude en se disant, il faut qu'on fasse des bonnes lignes de chance aussi.
C'est exactement ça, le destin, il faut le choisir. Ça va être difficile de croiser Hugo Pratt parce qu'il est décédé en 95.
C'est bien que tu me le dises, parce que je ne savais pas qu'il était mort, mais Hugo Pratt, on te salue, mais sa coloriste est toujours vivante du coup.
Oui, c'est elle qui vraiment est un peu, pardon, la mémoire du personnage d'Hugo Pratt, voilà.
Ouais, c'est elle qui fait vivre en tout cas sa mémoire.
Oui,
et
clairement.
Oui, tu l'as dit en fait, oui, je suis bête, il a été repris du coup par des auteurs.
Il y a plusieurs filiations qui ont été mises en place. Une filiation qui a actualisé le personnage de Corto Maltese en essayant de le mettre dans l'époque moderne. Donc l'idée c'est aussi de montrer, je pense, le personnage pour pouvoir toucher aussi un public un peu plus jeune. jeune, avec des codes qui sont plus de la BD moderne, on va dire.
Bien sûr.
Et puis ensuite, il y a la filiation que moi je connais un peu plus avec Ruben Pelerero et Juan Díaz Canales, qui sont vraiment deux auteurs de talent espagnol, où là, l'idée, c'est de continuer les aventures de Corto Maltès, mais dans les interstices de la biographie du personnage, qui ont été laissés libres par Hugo Pratt.
Ouais.
Donc ça permet d'avoir des sortes comme ça d'interludes, je dirais.
Ils ont fait la même chose avec Torgal aussi.
Voilà,
d'ailleurs. C'est
clairement.
Génial.
Et ça marche super bien.
Ouais, bah, c'est génial, parce qu'en plus, les passionnés sont heureux de découvrir, entre guillemets, des nouveaux bouts d'histoire dans l'histoire.
Et autant Ruben que Juan Díaz Canales, c'est donc Ruben Pelerero, les deux sont des fans absolus de Corto. Donc ils maîtrisent vraiment la biographie du personnage sur le bout des doigts.
Bah, en tout cas, voilà, il faut... Pour les gens qui ne sont pas passionnés de Corto, allez découvrir, puisque c'est quelque chose de... Déjà, visuellement, c'est magnifique à voir. Et en plus, effectivement, il y a toute une histoire, parce que j'imagine que si les voyages ont accompagné les BD, ça devait être des voyages aussi exceptionnels. Peut-être pas aussi exceptionnels que ceux de Corto, mais en tout cas, intéressant.
Hugo Pratt a une vie de fou. Hein.
Ah ouais,
pour avoir plongé un peu dedans. Ouais,
je regarderai, parce que je ne connais pas du tout.
C'est assez fou, et il a énormément voyagé. Et puis, en fait, il y a beaucoup de... Je ne veux pas trop divulgâcher, comme on dit, mais il y a beaucoup de Hugo Pratt dans Corto Maltès, très clairement.
Je serais curieux de découvrir ça, parce que pour le coup, je ne connais pas du tout sa vie. Et je viens d'apprendre sa mort avant même de découvrir sa vie, donc comme quoi. on parle d'Hugo Pratt et donc de Corto Maltès, le cultissime Corto, mais il y a aussi un collectif finlandais. On s'intéresse à la BD qui vient d'ailleurs dans le monde. Est-ce que tu peux m'en parler un peu?
Ouais, c'est une jolie histoire. C'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, l'idée, c'est toujours de se dire... on fait découvrir la BD d'hier et d'aujourd'hui et d'ici et d'ailleurs. Et ben là, on a été contacté. C'est vraiment une belle histoire. C'est qu'on a été contacté par la Finlande. Il se trouve que cette année, c'est l'année de la BD finlandaise en France.
Ah, okay.
Et donc, la Finlande nous a contacté avec quatre autres événements d'importance autour de la BD en France pour accueillir des auteurs finlandais. Donc c'est une belle initiative et en plus c'est une BD qu'on connaît pas tellement, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui sont édités en France depuis, des auteurs finlandais qui sont édités en France depuis plusieurs années, il y a environ 130 auteurs et autrices finlandais qui ont été édités, mais c'est vrai que pour la plupart des gens c'est pas forcément une BD... qu'ils connaissent, qu'ils identifient, et puis les codes sont un petit peu différents aussi. Nous, on s'est à la demande de la Finlande, ils nous ont fait une proposition, ils nous ont dit est-ce qu'il y a un groupe d'auteurs ou d'autrices que vous avez envie de rencontrer, et nous on a flashé sur Kuti Kuti. Alors Kuti Kuti en finlandais, pour la petite anecdote, ça veut dire gili gili, quand on fait des gili gili aux enfants. Et Kuti Kuti, en fait, c'est un collectif qui s'est développé en 2005. Il réunit plus de 60 auteurs et autrices de BD finlandais. Et en fait, ils ont une approche, c'est assez rigolo parce que c'est très, très épris de liberté. Toutes les décisions sont prises mutuellement ensemble. Il y a un vrai esprit de collectif. Voilà.
Génial.
Et leur décision principale, juste après la création du collectif, ça a été de créer une revue qui s'appelle Kuti. Et qui est une revue gratuite de bande dessinée, qui est distribuée dans plein d'endroits en Finlande. Il y a plus de 250 points de diffusion. Depuis 2006, elle existe. Donc voilà, elle se renouvelle d'année en année.
Ouais, 20 ans d'existence déjà.
Ouais. Et en plus, ce qui est très chouette, c'est que chaque numéro est différent de du précédent. Ils remettent vraiment, même leur charte graphique, c'est-à-dire même le logo Kuti, change d'épisode de numéro en numéro.
Ouais, donc c'est hyper créatif, quoi.
C'est hyper créatif.
Sur 20 ans, ouais, j'imagine.
Ouais, et donc, ce qui est rigolo, c'est que maintenant, donc ça y sème en Finlande, ça a aussi fédéré une scène autour d'eux, et puis ça a même fédéré des auteurs d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a même des auteurs internationaux qui, de temps en temps, font des petites apparitions.
Génial.
Dans cette revue, donc il y a quelque chose d'assez jubilatoire par rapport à ça, et l'idée, c'était de faire une exposition avec le collectif. Donc on revient sur cette aventure du magazine Kuti, qui dure depuis 20 ans, donc ça sera au Musée des Tapisseries, ce qui est joli. Voilà, quand on disait c'est aussi de découvrir des lieux, le musée des tapisseries, c'est un musée un petit peu atypique d'Aix, qui n'est pas forcément connu. C'est vrai que tout le monde connaît le musée Granet et voilà, les institutions aixoises, mais le musée des tapisseries, en plus, on s'installe dans la galerie gothique, qui est une galerie vraiment avec des ogives, vraiment qui ressemble beaucoup à une église ou une cathédrale. Donc c'est assez le contraste entre BD moderne finlandaise qu'on découvre et puis ce lieu un peu hors du temps. C'est vraiment chouette.
Et ces auteurs sont présents donc à Aix?
Alors, les 60 ne seront pas là, évidemment.
Ils sont 60 dans ce collectif?
Oui, ils sont 60.
Un très gros collectif.
Ouais, mais il y en a 5 qui nous rendent visite le 25 avril, pardon, je m'emmêle dans les dates. Le 25 avril, il y en a 5 qui seront là, et donc il y aura une rencontre avec le public. Il y aura aussi de la musique, il y aura une performance en direct, il y aura plein de choses. On va aussi offrir, ça c'est assez chouette, un journal qui s'appelle Palapeli, qui est un journal justement pour faire découvrir aussi aux gens la bande dessinée finlandaise. L'idée, c'est qu'on a demandé à 13 auteurs et autrices de bande dessinée de jouer sur les clichés autour de la Finlande. C'est-à-dire qu'on a tous une image de la Finlande.
C'est ça, ouais.
Souvent, c'est le rapport à la nature, l'importance de la forêt ou l'usage du sauna ou ce genre de choses. Et l'idée, c'était d'offrir une double page à chaque auteur et autrice où ils vont se réapproprier un des clichés qu'on peut avoir sur le pays et ils vont le redétourner à leur sauce.
Trop bien.
Et donc, ça permet vraiment de découvrir le pays, mais par ceux qui y vivent. Tout simplement.
Oui, c'est vrai que moi, pour le coup, la Finlande, j'ai peu de regard sur... Parce que pour moi, c'est un tout petit pays et ils ne sont pas beaucoup. Ils sont à côté de la Russie, dans mes souvenirs,
oui.
C'est bien ça.
Oui, oui.
Et voilà, je me souviens juste des passages historiques où la Russie envahit la Finlande. Mais c'est vrai que je n'ai pas de beaucoup plus de regard. Il y a les Samis, c'est chez eux ?
Oui, c'est ça. C'est
ah,
ça.
Bah tu vois, je vois.
Voilà, donc il y a quand même de la référence. Ouais.
Ok, d'accord. Donc les Finlandais débarquent à Aix-en-Provence. J'ai hâte d'avoir leur regard aussi sur Aix-en-Provence parce que ça va les dépayser aussi.
Ah ben j'imagine que oui, ils connaissent pas du tout. Quand les derniers échanges qu'on a eu, ils faisaient un temps assez mémorable chez eux, donc c'était assez drôle de se dire bah nous on a le soleil, même s'il y a un peu de vent, mais on a quand même le soleil.
Un peu de mistral, mais ça reste, ça va. Alors donc du coup on le rappelle, donc ce festival Rencontre du 9e art, donc c'est des expositions, des ateliers, des rencontres. Les ateliers, en quoi ça consiste? Juste pour visualiser quelques ateliers là, qu'est-ce qu'on fait pendant un atelier?
Oui, donc le principe du festival en gros, c'est vous allez avoir un parcours d'exposition à travers la ville. Par rapport à ces expositions, vous allez retrouver un calendrier de rendez-vous durant les 2 mois où vous allez pouvoir rencontrer les artistes. Mmh. Et en parallèle de ça, vous allez avoir plus de 70 ateliers pour les petits.
Ah, 70, ouais.
Okay. Ouais, on s'est vraiment battu cette année. C'est vrai que nous, on n'est pas un salon dédicace à proprement parler. Il y en aura quelques-unes, mais c'est vraiment pas le gros de la programmation. L'idée, c'est plutôt voilà, de permettre aux enfants et aux grands, par la même occasion, de mettre un peu les mains dans le moteur et de pouvoir travailler aussi un peu la bande dessinée, s'approprier un peu les univers graphiques des différents artistes invités. Donc, vous allez avoir des ateliers qui traitent à la fois de la typographie, mais aussi de la cartographie. Voilà, l'idée, c'est aussi... par exemple, on fait des ateliers autour de Corto Maltese pour les enfants, autour de l'idée de créer des cartes. Mmh. Parce que c'est vrai que les cartes et je dirais la géographie a une importance primordiale dans l'œuvre de Corto Maltese et d'Hugo Pratt en général. Donc l'idée, voilà, c'est aussi de faire jouer les enfants avec ça. On va avoir aussi des ateliers autour de la gravure. On a une très belle exposition qu'on fait avec un duo qu'on a créé pour l'occasion, qui est Joël Jolivet et Catherine Stangl. Joël Jolivet, c'est souvent un nom que les auditeurs peuvent connaître parce qu'elle a fait beaucoup d'albums pour la jeunesse. Mmh. Et voilà, notamment un superbe album qui s'appelle Costume, qui a été voilà, qui existe même en version à colorier et qui est magnifique. Et c'est quelqu'un qui maîtrise beaucoup la linogravure. Et dans le cadre d'un workshop qu'elle a fait entre les Beaux-Arts d'Aix et les Beaux-Arts de Nuremberg, elle a rencontré Catherine Stangl. C'était la première fois qu'elles travaillaient ensemble. Et Catherine est aussi illustratrice jeunesse et elle aussi travaille la gravure et la linogravure. Donc,
okay, génial.
Donc l'idée, c'était de les mettre en relation pour proposer une exposition un peu atypique autour de leur amour de la linogravure et de la gravure.
Ouais, c'est super, super rare. La linogravure, c'est impressionnant. Ouais.
Ouais, c'est assez génial. Et puis, c'est une pratique qui est aussi, accessible facilement.
C'est vrai.
Donc, l'idée, c'est aussi voilà, de permettre aux enfants d'apprendre, de comprendre les gestes de la linogravure. Donc, on va aussi, à la fois, il va y avoir des ateliers d'initiation et puis on va aussi les amener à se rendre compte qu'on peut faire aussi de la gravure avec des choses qu'on a chez nous. C'est-à-dire que, par exemple, on peut utiliser notamment les tétrapacks, c'est-à-dire les packs de lait.
Oui, oui.
L'intérieur, en fait, on peut le graver assez facilement, le côté un peu argenté.
Oui, je vois très bien.
Donc, l'idée, c'est aussi de montrer qu'avec des petites choses chez soi, on peut très facilement se mettre à pratiquer la gravure, les mêmes principes que la gravure.
Ah, bah, génial.
Donc, on va utiliser aussi une machine à pâte pour se servir de presse. Enfin, voilà. L'idée, c'est voilà, de faire aussi avec les petites choses qu'on a au quotidien chez soi.
Ah, bah, l'ancien amoureux d'art plastique que je suis a envie d'y être. En tout cas, ça a l'air génial. Bah, Maxime Arnaud, pour retrouver cette programmation, ce festival, comment on fait exactement? Comment on fait pour venir au Festival du 9e art? Parce que je le rappelle, c'est un festival gratuit. Et ça, on aime beaucoup.
Ouais. Il y a deux principes. Soit vous venez directement à Aix et vous allez à l'office de tourisme. Vous allez retrouver toutes les infos sur place. Parce que c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec l'office de tourisme, avec les équipes. Et donc, les équipes d'accueil sont hyper calées. Donc, vous pouvez venir directement à l'office. On va remettre le petit programme et tout ça. Et si vous avez envie de faire prévoir un petit peu en amont, vous allez sur le site du festival. Donc là, on est en train de... Les derniers ajustements se font, mais vous pouvez déjà vous inscrire pour les ateliers.
Génial.
Donc, vous allez sur bd-aix.com. Encore une fois, tous les ateliers sont gratuits. Il faut juste s'inscrire en ligne. Il faut le faire rapidement parce qu'en fait, on a malgré le fait qu'on ait 70 ateliers, ça part très vite,
bah oui.
Comme c'est gratuit. Et puis, comme il y a beaucoup d'ateliers qui ont lieu aussi pendant les vacances, bah voilà, il y a plein de gens qui prévoient leurs vacances un peu en avance. Donc, il ne faut pas hésiter. Allez sur le site bd-aix.com.
Bah, on essaiera de s'organiser. J'imagine qu'on vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux, Facebook,
oui,
Instagram et compagnie.
Évidemment, sur Instagram et sur Facebook, sans aucun souci.
Bon, bah, merci beaucoup, Maxime Arnaud, d'être venu dans nos studios. Bon courage pour l'organisation donc, de ces rencontres du 9e art, donc le Festival de la bande dessinée et des arts associés. Ça se déroule du 11 avril au 23 mai, je le rappelle, et il faut aller très vite réserver ses places si vous voulez en être, ou en tout cas si vous voulez participer aux ateliers. Merci à toi et excellente journée.
Merci et à très vite.